Babil, Babel, Babylone.
Dans ce dossier Babil, Babel, Babylone, que le journal de la Friche et Radio Grenouille ont construit, le langage est au centre. Nous avons voulu nous poser la question du dialogue, du métissage, de l'échange dans une société complexifiée où le repli identitaire marque le début du XXIe siècle. La langue traverse les territoires, les frontières, elle contribue à l'évolution des rapports sociaux en mouvement, elle dépasse la question de l'identité. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de trois metteurs en scène qui, par leur pratique et leur langage propre, ressentent chacun le besoin de rencontrer une autre culture. Le théâtre par la langue, le langage des corps, peut-il être un vecteur d'échange, d'intégration sociale, de compréhension de l'autre? Comment ces metteurs en scène travaillent-ils ces questions? Nous irons à la rencontre de François Cervantes de la compagnie L'Entreprise qui ne cesse de voyager à l'écoute des autres pratiques théâtrales, entre autres indiennes et indonésiennes. Ziani Chérifayad qui depuis Alger tente de faire vivre un théâtre arabe contemporain et pour qui l'échange vers d'autres cultures est indispensable pour une meilleure compréhension de soi. Et puis Franck Dimec de la compagnie Théâtre Ajmer, Franck qui a présenté la semaine dernière Adagio, fragment pour deux femmes, une pièce commise en scène avec Takahiro Natsui, un travail issu de plusieurs séjours en Asie et en particulier au Japon. Cette pièce posait la question du rapport à l'individu, alors qu'en Asie, c'est la question du collectif qui est au centre. Trois actrices sur scène, chacune s'exprimant dans sa langue, français, arabe et japonais. Par le corps, elles nous rencontrent, par la langue, elles nous parlent. Reposons la question du voyage et de la nécessité d'aller en Asie pour Franck Dimec.
Je pense que ça fait plusieurs années en fait que je suis dans une démarche qui cherche à non pas éluder mais évider en fait. C'est-à-dire que je situe en fait ma pratique au fil du temps au-delà des scories en fait. Peut-être ça fait un peu prétentieux de dire ça. D'autant que finalement c'est une pratique qui est entravée par plusieurs échecs de ce point de vue. Mais c'est vrai que pour moi en fait monter un spectacle c'est pas reconduire du même, c'est pas un spectacle de plus, c'est toujours une nouvelle question. Et il y a quand même une constante là-dedans, c'est que pour me poser ces questions-là, j'ai besoin de redéfinir, de faire place nette en fait. Bon, donc c'est vrai que je pense que je suis allé chercher en Asie mon rapport avec le vide, voilà. C'est ce que je suis allé chercher en Chine, c'est ce que je suis allé chercher au Japon, c'est ce que j'ai trouvé dans mes expériences personnelles et dans mon rapport aux artistes étrangers et aussi dans mon rapport à l'art asiatique notamment, japonais, théâtral, pas uniquement théâtral d'ailleurs, hein, plastique aussi, architectural, enfin... c'est ce que j'ai trouvé en fait là-bas, mais curieusement c'est pas, je trouve que il y a de l'échec quand même là-dedans quoi, du point de vue de ma pratique à moi. Je suis pas parti là-bas en fait avec des aspirations œcuméniques en fait. Je suis pas allé là-bas pour rencontrer l'autre avec un grand A. Non, je suis allé là-bas pour me perdre en fait moi-même. Donc voilà, Mais
Et tu t'es perdu?
Non, pas assez, justement. Non, pas assez. Bah, non. Non, mais c'est assez paradoxal parce que je dis ça et en même temps, je me souviens de ces 5 mois passés en Chine populaire il y a 5 ans de ça. Et c'est vrai que je n'avais jamais lu Claudel, par exemple, dans ma vie. On m'avait toujours déconseillé, en fait, de m'attaquer à ce genre d'œuvre. Sous prétexte que c'était plutôt d'un registre catholisant, quoi. Enfin, et du coup, j'étais parti avec quelques bouquins en fait dans mon sac, et c'est vraiment dans cet état de séparation et de coupure, tout relatif, hein, malgré tout, parce que j'étais quand même logé dans des hôtels pas 5 étoiles, mais enfin bon, enfin ça allait quand même pour moi, quoi. Mais je suis toujours parti dans des cadres qui était plutôt confortable. Hein. Je ne suis pas parti sac à dos. Je ne suis pas un backpacker, en fait. Backpacker, on dit ça comme ça? Oui, backpacker, voilà. Non, en fait, donc c'était plutôt des aventures assez confortables. Mais malgré tout, c'est vrai que, notamment en Chine, j'ai vraiment éprouvé une forme de séparation du point de vue de mes racines, de ma langue, en fait, de la langue française. J'ai manqué de cette langue, de ce chant, d'une forme de communication, mais pas uniquement en fait, du chant de la langue. J'ai manqué de ça. Enfin, voilà, pour moi, le départ, c'est un accident en fait dans les habitudes, et c'est aussi un moyen de se repositionner en fait. Radicalement, au mieux, de retrouver une forme de niaque, de reconcevoir en fait mon rapport à tout ça.
Moi, ce qui m'a intéressé dans la proposition qu'on a pu voir il y a quelques jours à la Friche, c'est que malgré la différence de culture et de langue et de repères, on comprenait, enfin en tout cas je veux dire, je comprenais très bien le langage de cette comédienne japonaise. Je suis rentrée dans... Et j'aimerais savoir, donc ça a été réussi de nous faire comprendre un langage différent. Pourquoi ne pas continuer à montrer et à faire comprendre aussi à un public, même si la question du public est peut-être secondaire, j'en sais rien, français, un travail avec des comédiens japonais. Enfin,
oui, mais fondamentalement, moi, ce que j'aimerais faire, et je pense, c'est facile pour moi de dire ça maintenant, encore que je suis, non pas en dépression, mais en décompensation, ou en grande introspection. Mais non, je pense que j'aurais mieux fait, en fait. Voilà, j'aurais mieux fait de monter le partage de midi de Paul Claudel avec des acteurs japonais et en langue japonaise, et de proposer à cette actrice japonaise, qui est une très bonne actrice, d'incarner en fait le personnage de Ise dans le partage de midi de Claudel. Je pense que l'aventure aurait été autre, et je pense qu'elle aurait été beaucoup plus essentielle pour moi, pour ma recherche, pour mes questions, et aussi pour elle, en l'occurrence, et aussi pour le public. Voilà.
It was a large room full of people, all kinds, and they had all arrived at the same building at more or less the same time, and they were all free. And they were all asking themselves the same question. What is behind that curtain? Born. And so you're free. So happy birthday.
Le texte en dehors du sens, de la signification, etc. Est-ce que sa musicalité, est-ce que son rythme, est-ce que...
La musicalité, j'ai jamais cru à ces conneries-là, excuse-moi, mais ça ne m'intéresse pas. Pour moi, la langue, ce n'est pas de la musicalité. Le texte, non, musicalité, pour moi, ça ne veut rien dire. Le texte, si on parle de musique, alors d'accord, quoi. Mais je veux bien faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de la musique... de l'ordre des racines, deux racines, l'autre de la terre en fait. Pour moi, la musique c'est une chose, la musicalité c'est autre chose. La musicalité ce serait une musique qui serait passée par de nombreux écrins en fait. Pour moi, la musicalité c'est un peu le concept de, c'est un des concepts de ce que revendique le théâtre contemporain qui me fait chier aujourd'hui quoi. Les voix blanches, les trucs finalement très formels, quoi, formalistes. Voilà, c'est un formalisme, la musicalité, ça se touche quand même beaucoup. La musique, c'est autre chose. Et la musique a à voir terriblement avec la langue. Il faut écouter Janis Joplin, il faut écouter Jacques Brel, il faut entendre Maria Cazares, il faut entendre Philippe Clévenot, il faut entendre André Marcon.
Quand tu écoutais cette comédienne, quand tu travaillais avec elle et que tu l'écoutais, tu comprenais pas forcément ce qu'elle disait.
Si, c'est-à-dire que j'étais quand même bien obligé de m'accrocher à mes petits repères. C'est-à-dire que j'avais quand même une partition traduite. Je m'accrochais surtout à des rythmes ou à des choses très formelles dans le texte, c'est-à-dire la forme du texte. Je prenais à des ponctuations, encore que elle varie aussi entre le japonais et le français, et selon les traductions aussi, parce qu'il y a quand même ça. On n'a déjà pas travaillé sur un texte français traduit en japonais. On n'a de toute façon pas travaillé sur un texte japonais original. Donc tous ces fragments sont aussi passés par l'écrin de la traduction. Et il y a eu aussi là-dedans des traductions qui ne se sont pas faites du français au japonais directement, mais qui se sont faites de l'anglais au français, puis du français au japonais. Donc c'est très compliqué. Mais cela dit, moi j'ai suivi comme je pouvais avec ma petite partition française, mais finalement, ça m'a aidé un petit peu au début, et je me suis vite rendu compte que l'enjeu était ailleurs, en fait. Mais c'était très intéressant. Ça c'était une aventure précieuse. J'avais très peur en fait. J'étais très angoissé d'avoir à diriger pour la première fois une actrice dans sa propre langue et dans une langue qui m'échappe totalement, tant phonétiquement que d'une manière écrite. Donc j'étais très impressionné par ça, mais finalement c'est quand même cet endroit d'inconnu en fait l'enjeu du travail se mesure sur cet inconnu là quoi, voilà.
Parce que elle, son théâtre, évidemment, basé sur une école. S'il y a des écoles au Japon, enfin une école différente, une façon de jouer peut-être différente d'ici, que tu respectais. Enfin, je sais pas comment se passait la direction du coup. Parce que est-ce que tu te permettais de dire des choses, de lui dire des choses à elle que tu te serais, enfin, comme une actrice française? Ou est-ce que tu te posais la question de dire sa culture est différente, peut-être que pour elle c'est pas comme ça que ça se passe, mais plutôt comme ça, peut-être que l'expression va, je sais pas, est-ce qu'il y avait une façon de jouer ou un langage théâtral qui est différent, même un rapport au corps peut-être qui est différent.
De toute façon, ce qui est certain, c'est que, enfin, je sais pas si ça émane de tous les acteurs asiatiques en Asie. Au Japon, il y a des bons acteurs, il y a des moins bons acteurs, il y a des bons metteurs en scène et il y a des merdes aussi. Hein, je veux dire, mais malgré tout, c'est vrai que ces gens-là, me semble-t-il, et elle en particulier, et quelques autres que j'ai rencontrés, ont quand même un rapport très singulier au geste. Et je dirais, au-delà du geste, à l'espace et au temps, surtout au temps en fait. Donc c'est vrai que dans leur pratique et dans leur formation aussi, il y a un grand écart, il y a une grande différence entre ce que j'ai pu sentir de ces acteurs-là, asiatiques, et ce que je peux sentir a priori des acteurs français avec lesquels je travaille, encore que en France, j'ai pu travailler avec des acteurs qui n'étaient pas formés du tout, et d'autres acteurs qui ont reçu des formations dans des grandes écoles, dans des écoles comme le TNS par exemple, comme le Conservatoire de Paris notamment. Je parle notamment de Fabrice Michel, qui est un acteur à mon sens exceptionnel, qui travaille ici à Marseille, pas que, mais bon, et avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler sur Péléas et Mélisande, et que je vais retrouver bientôt sur Irata notamment. Mais voilà, enfin. Donc il y a des gens qui ont un rapport à la langue, d'autres moins. C'est dommage.
Est-ce que ça veut dire quelque chose, un langage théâtral universel? Est-ce que le théâtre peut rassembler comme ça les cultures? Est-ce que...
Pas du tout. C'est une grosse connerie, ça. C'est moi qui l'ai dit, hein. Mais je dis des conneries quand même, j'en dis, putain, mais il va falloir que je me calme parce que...
Ça aussi c'était une connerie.
Réfléchissons.
Il me semble que la notion de culture commune, de langage commun, etc., quand on voyage un peu, de culture universelle, etc., peut sembler un peu faussée, hein, du fait qu'on est tous, on a tous des spécificités, on a tous des identités, on a tous des et vouloir rassembler, vouloir.
Mais moi, en fait, mon propos sur cette chose, Adagio, ça n'était pas justement a priori de rassembler à tout prix. Au contraire. C'est vrai que du point de vue du deal, en fait, au départ, l'idée c'était plutôt de nous appuyer sur nos différences, en fait, de construire effectivement un acte poétique, donc sous-entendu universel, parce que malgré tout, je pense que la poésie qui s'empare de la langue, ou de langues souvent parfois totalement différentes les unes des autres. Malgré tout, j'ai l'impression que c'est... voilà, là, il y a création d'un langage qui est souterrain, en fait. Qui peut, en fait, passer d'une culture à l'autre. C'est pas tellement le problème. C'est vrai qu'au départ, voilà, l'idée du projet, c'était plutôt de nous appuyer sur nos différences, sur nos héritages, sur des identités différentes, essayer de débusquer en fait ce qui faisait différence entre nous et de mettre ça au travail pour produire une espèce d'électricité. En ce sens, je pense qu'on est plutôt dans l'échec de la forme et de la proposition aussi. Ouais. Je dis pas ça pour me martyriser, hein, mais ce sont un peu mes questions après coup. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'une esquisse de langage là-dedans, en fait, qui d'une certaine manière, est nul et non avenu. Je ne sais pas ce que j'ai cherché, en fait, à produire là-dedans, ou peut-être j'ai trop cherché à produire. Alors voilà, c'est pour ça que j'insiste. Pour moi, l'enjeu de ce travail, ça a été toutes ces répétitions admirables avec cette actrice japonaise. Et puis, effectivement, cette angoisse, en fait, d'avoir à diriger une autre dans une langue que je ne pouvais pas capturer, que je ne pouvais pas saisir dans sa totalité, ni même dans... Je veux dire dans sa signifiance, en fait, et finalement l'endroit où malgré tous ces écarts, des liens se sont tissés par-delà la langue, en fait. Ça c'était fort. Après, le langage qu'on a voulu inventer, qu'on a cherché à débusquer autour de l'abstraction et tout ça, bon, oui. Donc c'est pas innocent que tu vois, une semaine après, maintenant que je suis quand même dans mes questions, un peu tard, c'est vrai, mais j'ai envie vraiment d'en revenir aux pièces, en fait. J'ai envie de monter des pièces, j'ai envie de monter des œuvres, j'ai envie de monter des auteurs. Pour moi, il y a des auteurs, il y a des acteurs. Les metteurs en scène ne sont que les véhicules, en fait, de ces autres...
Enfin, ils permettent de traduire, oui, c'est ça, ils permettent de traduire des mots, des textes, des expressions.
Traduire comment ?
Pour nous, pour le public.
Oui. Enfin, et puis, non, mais en même temps, ce qui est curieux, c'est que je pense que par exemple, je pense que je prends par exemple. Justement, ces derniers travaux que j'ai pu faire. Que ce soit autour de Bond, bon, les pièces de jeunesse de Bond, ça commence un peu à dater maintenant, puisque ça fait 8-9 ans. Je pense à L'échange de Claudel, je pense à Péléas et Mélisande de Maeterlinck, même à Kafka, cette comédie de ce jeune auteur autrichien Franz Hobbes. Voilà, c'est vrai que d'une certaine manière, je sens que je parviens mieux à dire mon propre rapport au monde à travers ces auteurs-là et à travers ces dramaturgies, cette complexité en fait, que sur des projets a priori plus personnels, quoi. C'est curieux. Et j'ai le sentiment que les acteurs sont convoqués à des endroits plus essentiels d'eux-mêmes lorsque entre eux et moi, il se trouve cet os à rogner qu'on appelle un texte, qu'on appelle une pièce. Voilà.
Guten Tag.
Moin, wohin geht's, Fräulein?
Bitte schnelle zu Regatta, nach Duisburg.
Duisburg?
Ja, ja, Duisburg.
Erd gemacht.
Bitte schnelle.
Вы лучшая девушка в СССР.
О, спасибо, Данкишен.
Partir d'un texte d'auteur pour mieux traduire sa propre vision du monde, c'est aussi dans la démarche de Ziani Cherif Ayad, metteur en scène algérien qui travaille à la reconnaissance dans son pays, l'Algérie, mais aussi en France, d'un théâtre arabe contemporain. Il écrit dans le journal de la Friche que dès les années 60, des auteurs et metteurs en scène, tout en connaissant parfaitement le théâtre occidental, ont cherché d'autres pistes pour se réapproprier leur culture d'origine. C'est sur ce type de théâtre que j'essaye de travailler, un théâtre de la parole inspiré par la culture populaire et inscrit dans l'espace public. Mettre en avant des auteurs algériens que le pouvoir en place marginalise ou qui sont passés à la trappe dans les années 90 pour leur liberté de ton, faire renaître un théâtre engagé en Algérie, ouvert sur le monde, ne peut se faire vraisemblablement sans des rencontres avec l'autre rive, la France. Ziani sera bientôt à Marseille avec El Machina, une création à partir de textes d'Abdelkader Aloula. El Machina sera créée au Théâtre de la Criée en novembre et tournera en région par la suite. Trois représentations en langue arabe sont programmées à la Friche en décembre. Rencontre par téléphone avec Ziani. Donc est-ce que la reconnaissance à l'international et puis ces allers-retours entre la France et l'Algérie peut peut-être aussi être un moyen de reconnaissance et de développement pour le théâtre algérien ? Le fait que vous fassiez comme ça des allers-retours, que vous avez une certaine assise, une certaine reconnaissance aussi bien en Algérie qu'en France, peut-être que par ce dynamisme-là, vous pouvez, espérons-le, recréer un mouvement et recréer un espoir dans l'avenir du théâtre algérien.
Absolument, et à tous les niveaux, parce que là aussi, d'abord, nous avons, c'est un peu la baissée, quoi, de dire que on ne peut pas développer une forme artistique, même si on essaye de trouver une singularité par rapport à une identité culturelle particulière. Mais la confrontation, l'échange est très très très, c'est hyper important pour développer une vision, même si elle est au départ ancrée dans une culture, dans une société, dans une singularité identitaire. Et donc l'échange est hyper important. Et ça, à mon avis, l'Algérie on en a souffert d'une espèce d'autarcie et de vivre. Donc l'ouverture, elle est nécessaire. Ensuite, moi, je parle aussi du point de vue de la liberté. Ça, c'est aussi hyper important. Être un artiste à la fois, bien sûr, dans ses projets ayant une vision d'abord de la développer dans son propre pays, mais en même temps avoir ce confort, je dirais, hein, ce confort d'être aussi ouvert et en même temps d'aller et de voir et de confronter son travail avec d'autres artistes. Je pense que ça c'est hyper important, à la fois pour l'artiste lui-même, pour l'artiste lui-même, et aussi une manière d'offrir par la suite à son propre public des propositions artistiques plus intéressantes et auxquelles le public adhère plus, parce que la pression, disons, une espèce de pression, parce que nous subissons quand même, quand on est ici en Algérie, nous subissons une espèce de pression politique, même si elle n'est pas, franchement orientée. Hein. Mais sinon, mais il y a quand même une espèce de vision un peu clientéliste et où les gens n'osent pas pour assurer des lendemains, etc., pour pouvoir continuer à travailler. Donc, en espèce de il y a une espèce d'autocensure, mais qui est hyper importante. Donc, cet artiste qui n'est pas dans cette ambiance, qui essaye d'échapper à cette ambiance pour avoir et pour pouvoir s'exprimer plus librement, à mon avis, est beaucoup plus à même de présenter au public et de répondre à une espèce d'attente du public qui est beaucoup plus... En tout cas, nous la ressentons aujourd'hui au niveau de la rue et au niveau des gens avec lesquels on parle, quoi. Ce qui fait la culture... L'art, aujourd'hui, le plus intéressant, il se fait en dehors des sphères officielles.
And inside you have something very beautiful, very sweet, white, very clean. I think it's the most clean thing that you can ever imagine.
J'imagine que votre public est plus souvent français qu'algérien. Et est-ce que ça oriente le choix de vos pièces et du sens que vous voulez porter au propos de...
Absolument pas. Non, absolument pas. C'est-à-dire que le public est français. Je ne sais pas, le public est français quand on joue en France, hein, bien sûr. Ceci dit, j'ai passé 10 ans en France avec à peu près 6 à 7 ans sans mettre les pieds en Algérie. Ceci dit, j'ai toujours fait en sorte de ne pas être influencé, même d'une manière inconsciente, pour un peu dévier de mes choix de départ, pour me dire maintenant il y a un public français, donc je dois m'adapter. Et je ne sais pas ce que ça veut dire s'adapter à un public. Hein. Franchement, je ne sais pas. Parce que nous avons essayé de monter des spectacles alors qu'on était en France, et sans avoir à viser, et sans se mettre dans cette position de nous dire là, aujourd'hui, on va parler en français, on va montrer des spectacles en français, on va jouer en français. Est-ce que nous allons, parce que les Français ont d'autres traditions, le public français a d'autres repères, etc. Faut-il s'adapter à ça? On s'est jamais posé cette question. On a fait comme si on jouait, comme si, en tout cas moi, je montais les spectacles, comme si je m'adressais, comme d'habitude, à un public algérien. Et du coup, ça passait la rampe et on n'a pas eu de problème, quoi, dans ce sens. Ce qui fait, donc, sur ce plan-là, non, ça n'a, à mon avis, ça n'a pas du tout changé mon regard ni mon travail par rapport à ce type, par rapport à cette situation, en tout cas, qui va passer, quoi, que beaucoup plus aujourd'hui, nous avons un public beaucoup plus en France qu'en Algérie.
On parlait en début de cette rencontre que le théâtre aussi est un vecteur de dialogue, d'échange. Oui. Est-ce que quand vous jouez en France, justement, et que vous vous adressez à un public français, vous avez conscience que votre théâtre peut éventuellement changer le point de vue que les Français peuvent avoir sur la population immigrée, ou en tout cas favoriser une compréhension de l'autre?
À mon avis, énorme. Oui. On a eu des expériences. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, on a tenté une expérience qui est vraiment une histoire assez édifiante. C'était quand j'ai proposé un spectacle, c'était autour de la présence féminine dans la littérature algérienne. Et j'ai fait ce spectacle avec la Ligue de l'enseignement. Et donc on a fait une tournée, et puis en préparation et en amont à cette tournée, je suis parti dans toutes les villes là où on devait se produire, et j'ai parlé un peu des auteurs que j'avais choisis pour ce spectacle à des ados, des ados de collège, donc des mômes. Et puis je me rappelle d'une anecdote, c'était à Morée, au Jura. Après la représentation, et comme la Ligue de l'enseignement a un bulletin, donc ils ont recueilli quelques avis des jeunes spectateurs. Quoi. Et il y avait un adolescent d'origine algérienne qui disait un truc vraiment qui est très révélateur de ce qu'on peut appeler un théâtre d'échange. Alors, il disait que c'est pour la première fois où j'étais fier d'être algérien, parce que j'ai vu mes amis français se lever et applaudir mes compatriotes. Et donc, c'est-à-dire que pour lui, cette façon de montrer et de faire écouter une parole d'auteur algérien a fait que ses amis français se sont levés pour applaudir, et du coup, ça l'a valorisé, et ça a valorisé aussi sa propre culture. Et donc, cette histoire qui est par rapport justement à cet Algérien de retrouver sa propre culture au travers d'une représentation, c'est à mon avis un des rôles que nous sommes en train de mener par rapport à ce projet que nous menons avec la région PACA et avec la Friche Belle de Mai, pour ce qui est de ces dramaturgies contemporaines arabes, de les faire connaître en France, à la fois justement à destination de ces générations d'origine maghrébine et arabe d'abord, et ensuite aussi pour les faire connaître en même temps, parce que en fin de compte, on s'aperçoit, plus on discute avec ces jeunes générations, qu'est-ce qu'ils retiennent de leur culture d'origine, sinon que ça passe que par le prisme religieux et que par le prisme de l'islam, quoi. Mmh. C'est que parce que quand ils viennent dans leur propre pays, et parce que différents pays n'ont rien fait, et n'ont pratiquement rien fait pour la culture d'une manière générale, et de faire connaître les auteurs, par exemple, ou bien les artistes ou les intellectuels, parce que ça dérangeait, donc politiquement. Donc on faisait tout pour essayer de les occulter et pour ne pas les faire connaître, d'abord. Donc ce qui est pour ces générations d'origine maghrébine et arabe, et en même temps aussi pour un public français qui ne connaît et qui connaît de notre culture, de notre politique, que ce qu'il voit à la télévision et que ce qu'il lit dans les journaux. Et donc cette façon de présenter ces auteurs, de présenter ce théâtre, c'est une manière aussi un peu un contrepoint pour dire qu'il y a aussi autre chose, et que connaître l'Algérien, ce n'est pas uniquement à travers ce qui s'est passé ces dernières années par rapport à l'islamisme, mais qu'en Algérie ou ailleurs d'ailleurs, il y a des gens qui résistent, il y a des gens qui luttent, il y a des gens qui se battent pour justement quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce qu'on veut faire croire.
connaître sa propre culture, sa langue d'origine pour mieux s'intégrer dans la société, prendre confiance dans son passé, son histoire, son patrimoine peut en effet aider à mieux s'adapter à l'autre. Comment François Cervantes et sa compagnie L'Entreprise voient-ils le voyage ? Donc de bon matin, François, si tu le veux bien, on pourrait commencer cette petite conversation autour du langage théâtral et de la façon dont le théâtre peut métisser aussi bien les rapports sociaux et puis être à un moment un facteur d'intégration pour les uns et les autres. Mais peut-être commençons par le voyage, puisque la compagnie L'Entreprise est amenée à beaucoup voyager, à travailler aussi avec d'autres cultures. Enfin, il y a une ouverture comme ça qui se fait sur l'étranger. Alors est-ce que c'est le théâtre qui vous a amené avec la compagnie à voyager, ou est-ce que c'était déjà un besoin, naturel, quoi?
Alors pour moi c'était déjà un besoin naturel. Le voyage est presque aussi important que l'écriture, et une manière d'aller dans l'espace et d'aller à la rencontre des gens et de croiser des impressions sans savoir d'où elles viennent, et de les laisser décanter petit à petit. Ensuite, il y a le théâtre nous a amené à voyager parce que, sans doute par hasard, ces spectacles-là ont commencé à tourner à l'étranger. Donc c'est se rendre compte que dans les voyages à l'étranger, particulièrement quand on est parti en Inde, la rencontre de la vie des gens de ce pays-là était bien plus importante que ce qui se passait au moment du spectacle. Parce que le contact avec cette société, ces gens-là, ce pays, a été un choc énorme qui a mis des années à se décanter, qui continue sans doute à se décanter. Et que le spectacle, ce que ça nous a apporté en premier, c'est que ce qu'on croyait être des références, peut-être pas universelles, mais enfin partageables, on était très très loin du compte. Donc ça amène à une épuration et à la recherche. Moi je pouvais formuler après que c'était chercher un langage direct, ce qui est peut-être simple, mais qui demande des années, enfin qui n'en finit jamais.
C'est-à-dire que là-bas vous vous êtes adressé aussi à des Indiens, enfin, évidemment. Donc comment vous avez l'impression que votre théâtre a été perçu là-bas? Et comment ces retours-là aussi, et le public indien, et puis la rencontre avec des comédiens et des gens de théâtre de là-bas vous ont nourri et ont fait que votre théâtre aussi s'est peut-être enrichi d'une autre culture?
Il y a eu beaucoup de chocs en même temps. Un des chocs, c'était de se rendre compte, puisqu'on partait à l'étranger, on représentait la culture française. Ça, c'était un premier choc, parce que c'était au tout début de la compagnie et que je ne m'étais jamais posé cette question-là, comme ça. Je n'ai pas commencé le théâtre dans une histoire de l'art très claire. Je ne me sentais pas du tout représentant de la culture française. Ça m'a obligé à me poser la question, je veux dire, où j'étais dans la culture ou dans le théâtre de mon pays. Ensuite, de voir que cet objet théâtral, ce moment, était créé beaucoup de malentendus. Les gens pouvaient avoir beaucoup de plaisir à le regarder, mais ne recevaient pas forcément ce que nous, on avait cru y mettre. Et ensuite, que les gens ne se rendaient pas compte à quel point la rencontre avec eux était un choc énorme. Parce que eux portaient déjà un rapport entre l'art et la vie qui était tellement intense que, sans le savoir, il crée les conditions de ce choc-là. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de choses en très peu de temps. Et après, c'est en décantant qu'il y a eu des tournées beaucoup plus claires à ce niveau-là. Des tournées qu'on a pu faire en Pologne, dans l'Europe, disons l'Europe de l'Est, où ces choses, on avait plus de références.
And inside you have something very beautiful, very sweet, white, very clean. I think it's the most clean thing that you can ever imagine.
De retour ici avec les populations métissées que l'on peut croiser en France et particulièrement à Marseille, est-ce que vous aviez envie de vous adresser aussi à ces populations-là, ces populations immigrées, et est-ce que vous vous êtes dit que votre théâtre pouvait tout à fait être compris aussi par ces populations et être un vecteur d'échange, quoi?
Il y a deux choses qui sont très différentes, je crois, qui sont vraiment différentes. Il y a le moment où on est en train de créer et j'ai l'impression de ne m'adresser à personne en particulier. Moi-même, dans ma vie, par exemple, une chose qui me trouble énormément, c'est quand je rencontre des gens que je connais sur des tableaux du 16e ou du 17e siècle. C'est un plaisir énorme, je les vois, je me demande comment ils ont fait pour arriver là, mais je les reconnais. Alors, il y a le fait que je m'adresse à des gens qui sont de toute catégorie sociale et moi j'ai une origine très métissée, donc je n'ai pas du tout de direction. Il y a la deuxième chose qui est que je sais que ces gens-là n'ont pratiquement aucune chance d'entrer dans le théâtre. Et ces deux choses-là sont très différentes. C'est-à-dire, je ne vais pas construire un spectacle à partir de la réflexion du fait que ces gens-là n'entrent pas dans le théâtre. Ça me donne envie de quelque chose de plus, d'avoir une démarche différente, de travailler à un autre rythme, de me mettre dans un autre bâtiment et de travailler d'une autre manière. Mais au moment de la création, je crois que les spectacles qu'on a fait jusqu'à maintenant s'adressent à tout le monde, a priori. C'est-à-dire, je crois qu'une fois que ça commence, c'est de l'ordre d'un choc amoureux. Et que quelqu'un qui n'a pas du tout la culture, sur un tout petit détail, un éclairage, un corps, une voix, va recevoir une impression qu'il n'est pas capable de comprendre, qui va se déposer en lui, qui mettra plusieurs années. Mais c'est un premier point qui va peut-être l'inscrire dans une culture ou son histoire. La première fois que j'ai commencé à faire du théâtre, parmi les chocs, alors que j'écris, c'était de passer des nuits dans un théâtre, l'espace Cardin, où j'avais l'autorisation d'aller voir des nuits d'éclairage. La lumière dans l'espace, c'était du théâtre. Mais je ne sais pas à quoi ça faisait appel. Ça faisait appel au petit matin au Maroc quand j'étais enfant. En tout cas, c'était du théâtre. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Je ne pouvais absolument pas le comprendre. Alors peut-être que quelqu'un qui est immigré, qui va dans un théâtre, c'est le chemin pour y aller, l'heure à laquelle il y va, la liberté qu'il ressent, l'anonymat, son voisin à côté, une phrase. Tout ça, c'est très difficile de théoriser là-dessus. Par contre, je pense que si on fait du théâtre, c'est pour aller à la rencontre de son histoire. Au-delà de son histoire claire, l'histoire de son corps, qui est beaucoup plus complexe que celle qu'on peut essayer de définir avec une grande histoire.
Pour amener ces gens au théâtre et pour du coup faire en sorte qu'il y ait une rencontre entre chacun, hein, que ce soit immigré, non immigré, enfin vraiment qu'il y ait un public uni devant face à une pièce. Finalement, je ne dirais pas comment il faut faire, parce que là c'est vrai que c'est une autre histoire, c'est les ateliers. Mais est-ce que le public qui est là va quand même par le propos théâtral, par le geste, par le langage théâtral se créer une ouverture vis-à-vis de son voisin qui ne sera pas forcément venu, mais se créer une ouverture sur l'autre, quoi. Est-ce qu'à un moment, enfin le théâtre de l'entreprise, hein, on va pas forcément parler en général, peut être un moyen d'ouverture sur son voisin, sur l'autre, sur celui avec qui on partage le quotidien, la cité, qu'on ne partage pas forcément une pièce de théâtre. On va se croiser dans la rue, mais on ne va pas forcément se parler.
Peut-être que ça, c'est le théâtre par essence. L'art aussi, mais enfin, le théâtre tout particulièrement, parce que c'est un mélange de tentatives artistiques dans un terrain très vulgaire, qui est celui de la vie et celui de la chair. C'est différent de la peinture, par exemple. Des gens sont présents sur le plateau à quelques mètres des gens qui regardent. Alors, cette histoire-là, je ne sais pas, elle est très simple. C'est-à-dire, on a une histoire de sang. des arbres généalogiques, des conflits. Et puis, il y a une autre histoire que le théâtre soulignerait, qui est une histoire de choc amoureux, qui est que quelqu'un d'étranger qui vient au-devant de nous est un choc aussi fort que celui du sang. C'est l'histoire même du théâtre qui dit qu'on aurait des origines métissées, qu'on ne peut pas construire l'histoire uniquement avec une histoire de sang, parce que depuis la nuit des temps, ces chocs-là croisent l'histoire du sang. Alors peut-être le théâtre doit rester serré autour de son identité et garder les portes ouvertes. Et là, pour l'instant, c'est vrai qu'on est dans une période où le théâtre cible son public, essaye, en ayant des rapports un peu plus conviviaux, de s'adresser à un groupe de gens et sans savoir qu'il exclut les autres, qu'il y a des histoires de quartier, les villes ne sont plus vraiment des villes, c'est des espèces de mégapoles où on ne sait plus comment les gens vivent, se déplacent, donc on n'a pas beaucoup d'éléments par rapport à ça. Et que le théâtre, il est arrivé d'une histoire simple où c'était se planter dans un quartier, voir une ville, et puis petit à petit des gens qui venaient. Maintenant, il y a tout à reconstruire, mais ça, c'est au niveau sociologique, on va dire. Mais le théâtre, par essence, je crois, est déjà inscrit dans le métissage. C'est-à-dire le théâtre serait né d'une version de l'histoire de l'homme qui ferait l'histoire du sang, et le théâtre raconterait l'histoire du métissage. Le théâtre appartient aux métis, aux bâtards. Je crois que c'est son acte de naissance. Donc il n'a pas forcément à travailler autrement que de se souvenir de son identité. Par contre, que la porte du bâtiment reste ouverte et que des gens viennent, ça c'est une autre histoire qui est celle des directeurs de théâtre, l'histoire dans laquelle on est plongé en ce moment.
Merci François Cervantes.
Merci.
C'était Théâtre, langue des hommes, une émission proposée dans le cadre de Babil, Babel, Babylone, un dossier construit avec le journal de la Friche. Prochain rendez-vous dimanche 13h30 avec Blablabla, une émission qui part du jargon administratif déshumanisant pour aller à la lingua quintae respublicae, épinglée par l'écrivain et éditeur Éric Ozan. Bonne journée sur les 3-8. Thank you.
Thank you.